Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Bonsoir à toutes et à tous, on est jeudi sur Fréquence Paris Pluriel et c'est Zoom Écologie. Ce soir, on va aborder un thème qui nous est assez cher. Le thème de notre émission de ce soir, c'est donc ZAD partout, et on va commencer par prendre des nouvelles d'une lutte qu'on avait déjà suivie à la rentrée de septembre, c'est celle autour de l'estuaire de la Loire, et plus particulièrement au Carnet. Et on va commencer donc par prendre un peu des nouvelles, puisque cette semaine, les menaces d'expulsion de la ZAD se sont faites de plus en plus concrètes. Voilà, donc on commence avec des nouvelles de la ZAD du Carnet, et ensuite on ira faire un tour dans une toute nouvelle ZAD qui s'est installée depuis une dizaine de jours en Ile-de-France. C'est la toute première ZAD d'Ile-de-France, c'est celle du Triangle de Gonesse. Là encore, une lutte qu'on a pas mal déjà abordée dans Zoom Écologie, et on est très content d'avoir eu l'occasion d'aller traîner un peu nos micros et nos chaussures sur le terrain de la ZAD de Gonesse le week-end dernier pour vous en rapporter un petit reportage et des nouvelles toutes fraîches. On commence par le Carnet et on revient tout à l'heure avec Gonesse. Pour cette partie de l'émission, on a décidé de prendre des nouvelles de la ZAD du Carnet, dont on avait déjà parlé début septembre, au moment où la ZAD s'était installée. C'est une ZAD qui s'est installée sur un terrain qui est en bord de Loire, sur la rive sud de l'estuaire de la Loire, en face de Saint-Nazaire, et qui vise à lutter contre la bétonisation de cet endroit et l'installation d'une zone industrielle. On reçoit ce soir une habitante de la ZAD, merci d'être là.
Merci pour l'invite.
Est-ce que, déjà pour commencer, tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe en ce moment, l'occupation, ça commence à faire un moment que vous êtes là, ça fait depuis septembre, donc ça fait quoi, 5 mois?
Là c'est une actu assez chaude, autant sur d'abord sur le terrain légal, parce que il y a des lignes qui bougent au niveau des élus, des lignes qui bougent au niveau du Grand Port, qui jusqu'ici en fait s'était terré dans le mutisme et a plutôt choisi des voies de médias interposés pour se positionner, quoi.
Ouais. Le Grand Port, c'est juste pour les auditeurs franciliens qui sont pas forcément au courant, c'est le Grand Port de Saint-Nazaire, c'est l'aménageur du Carnet, c'est ça?
Ouais, c'est ça, c'est le porteur de projet entre gros guillemets, le parc écotechnologique, quoi.
Ouais.
En gros, une dalle de béton pour une croissance verte, un enfumage écologique, quoi.
Oui.
Le Grand Port s'était positionné juste après le moratoire du Conseil scientifique, qui donc demandait des précisions sur le projet et qui avait pointé plein de lacunes et aussi quelques incohérences au niveau du détail du projet, parce que il n'y a pas d'investisseurs il fallait détailler vraiment les enjeux et aussi j'imagine tout pourquoi investir autant pour un projet qui est pas vraiment dessiné. Donc suite à ça le Grand Port avait décidé donc de jouer une stratégie médiatique un peu de pas de côté pour reprendre des mots connus. On a entendu ce que disait le conseil scientifique et on va repousser le projet d'un an.
Coûtait pas cher en plus entre les confinements. C'était pas une mesure extraordinaire, quoi.
Ouais, c'est pas extraordinaire non plus, dans le sens où c'est le projet donc qui est repoussé d'un an, mais il y a un phasage tel que c'est aussi ça veut pas dire que nous qu'on pourra continuer d'occuper encore un an, quoi.
Oui, bien sûr.
C'est parce qu'il y a aussi les travaux d'aménagement du projet qui eux ne sont pas en cause par le fait de repousser le projet d'un an, quoi. Mmh. Donc et ensuite le troisième aspect un peu chaud, enfin au niveau juridique en ce moment, c'est une ordonnance judiciaire qui est arrivée hier pour ce qui concerne la route qui vient sur le carnet, ouais. Donc la D177, voilà, qui est plus au niveau local, donc là le plus au niveau départemental, quoi. Donc il y a les élus qui demandent, qui ont demandé à la préfecture de faire quelque chose, prendre une décision pour évacuer le carnet. La oui. préfecture a répondu défavorablement et oui. donc ils ont saisi le tribunal administratif en référé pour un recours contre cette décision de la préfecture. Okay. Donc il y a eu ça le 4 février dont on attend toujours les retours.
Ouais.
Donc ils mettent un peu sur une situation de qui-vive quand même.
Oui, bien sûr.
Et la préfecture a annoncé qu'ils attendaient que ce soit décidé par voie juridique avant de lancer une évacuation. Les mmh. maires, eux, n'ont pas vraiment de marge de manœuvre là-dessus. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé d'aller au tribunal administratif. Ouais. On attend toujours. En parallèle, il y a le Grand Port, du coup, qui a demandé, enfin, une ordonnance judiciaire qui a été accordée et remise par huissier. Donc là, du coup, c'est ce qui met vraiment la question de l'évac bien dedans, quoi, bien mmh. sur le feu. Et donc, voilà, les usages de la route au niveau départemental, voilà, qui ont été remis mmh. aussi. Donc là, ouais, là, c'est assez clair.
Et c'est un peu étonnant donc, que la préfecture, elle n'ait pas dit direct, oui, ok, on les expulse.
En fait, je pense qu'ils attendaient, à mon avis, hein, là, c'est une analyse un peu, peut-être un peu un flair perso, quoi, mais il y a beaucoup de communiqués, du coup, produits par le collectif Stop Carnet et la team Com de la ZAD aussi, en synergie, pour justement dégager un peu tous les enjeux de tous ces trucs-là, un petit peu mis bout à bout. Mmh. Donc en réponse à justement tout ce qui est en cours, parce qu'il y a aussi beaucoup de en fait là-dedans il y a aussi beaucoup de il y a eu beaucoup de calomnies, de mensonges, notamment dans les journaux locaux et tout ça, pour aussi un peu cette stratégie là de comme d'habitude de dénigrer les habitants et habitantes de la ZAD,
ouais, de
notamment sur des faits complètement tarir l'image,
faire que l'image se retourne contre les occupants, quoi.
Voilà, et puis aussi peut-être une proportion plus importante de plus étendue de la population, quoi, pour surfer un peu aussi sur les a priori, les préjugés sur les zadistes, quoi. Mmh. Mais ça c'est fondé quand même sur des trucs assez anecdotiques mais mis bout à bout qui font frémir des personnes qui ne sont jamais venues nous voir ou qui ne connaissent pas trop ces milieux-là ou d'autres manières de vivre aussi. Et donc, il y a aussi que, du coup, la préfecture, eux, je pense, était plutôt plus que ces considérations-là, attendaient vraiment quelque chose, peut-être de la part du Grand Port ou encore d'en haut, parce que le Grand Port, c'est aussi l'État, dans le sens où il y a le conseil départemental dedans, le conseil régional aussi, et que de toute façon le carnet c'est des enjeux financiers énormes, vu que ça fait partie des 12 sites clés en main de Choose France, de Macron aux investisseurs, ouais. quoi.
Ouais,
donc ce qui fait pencher la balance au niveau préfectoral, je pense que c'est plus une attente de ce côté-là, plus que des localités au niveau des élus. Mmh. Donc, de cette inaction, entre guillemets, parce qu'on sait pas ce qu'ils préparent non plus, quoi. Enfin, on voit bien là que ça va, ils sont pas non plus en train de se toucher la nouille derrière, mais l'espace médiatique de pouvoir qu'on soit complètement détracté sur des tout petits trucs, ce qui fait monter aussi quand même...
ce qui fait un peu monter la sauce et l'hostilité, ouais. Et comment ça se passe du coup pour vous, pour les occupants, là, la vie sur la ZAD, ça va? C'est encore tranquille ou vous avez des soucis avec le voisinage ou enfin je sais pas comment, est-ce qu'il y a des contrôles de flics, est-ce qu'il y a
au niveau routier, bon il y a eu surtout de toute façon un énorme convoi accompagné de l'huissier quoi ça c'est des, de toute façon c'est et des passages et du passage un peu de flic quoi, ça met un peu la pression évidemment sur la vie collective, mais en tout cas voilà, nous on est ici, on a besoin de monde et voilà, on essaye de se préparer le mieux possible et à conserver quand même une vie collective, enfin on est ensemble, voilà quoi.
Ouais bien sûr, mais je posais la question parce que on se souvient de la boue puante qui avait été déversée le jour de la manifestation fin août quoi, et donc on voyait bien déjà à ce moment-là que dans le coin il y avait des gens qui étaient tout à fait hostiles à la lutte du carnet.
C'est pas évident de tenir
une occupation quand il y a des gens qui sont hostiles comme ça quoi.
Ouais, c'est sûr, c'est pas évident, et c'est aussi prendre soin beaucoup de rester ouvert sur l'extérieur en informant au maximum de ce qui se passe. Du coup, c'est aussi de répondre plus intelligemment aussi aux attaques, enfin surtout qui sont là en ce moment. Il y a eu quand même une déferlante médiatique assez dégueulasse où c'est toujours de rappeler derrière en fait qu'il y a une lutte, qu'il y a un combat, qu'à côté d'accros ou comme ça qui sont complètement enphasés derrière dans les journaux locaux ou quoi, en fait il y a un écocide à venir de la part du grand port qui ne relancera pas une vie sur les communes ici parce que il y aura plus de zones sauvages sur l'estuaire, ces derniers 400 hectares ils vont sauter, ça va devenir une dalle de béton les riverains riveraines parlent souvent, ou les voisins parlent qui sont plutôt contre l'occupation ou quoi, ou bien le fait de lutter contre ce projet, parlent beaucoup d'emplois. Alors bon, ce qu'on dit souvent et ce qui est, enfin, dans la réalité, c'est pas du tout des emplois qui seront pour eux quoi. Enfin, oui. Ça va être des emplois surqualifiés qui viendront de personnes diplômées de grandes villes ou de l'étranger.
Ce sera soit des jobs au bas de l'échelle d'entretien et de maintenance, des trucs éco-énergie et compagnie,
De l'intérim, des emplois précaires ou bien des ingénieurs en ceci ou cela, quoi.
Donc, on a bien compris que c'était pas super intéressant, effectivement. Et du coup, là, si jamais l'expulsion, elle arrive, et en attendant aussi d'en savoir plus, comment est-ce qu'on peut soutenir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire pour vous soutenir?
Devenir. Venir, c'est super chouette. Les forces vives sont super importantes. Je sais pas trop. Enfin, on a une liste de besoins qu'on a sur le site zducarnet.org où on dresse un peu tout ce dont on aurait besoin. Je sais pas trop quoi dire d'autre au niveau de c'est vrai que quand on est vraiment dedans il y a aussi qu'on est un peu pris
Ouais, je sais pas, est-ce qu'il y a un rendez-vous, par exemple, est-ce qu'il y a un comité de soutien à Nantes ou à Saint-Nazaire? Est-ce qu'il y a un rendez-vous
Ah
en
oui.
cas de début d'expulsion? Est-ce qu'il y a des choses comme ça à savoir et qu'on pourrait relayer?
Ouais, ben ouais, alors ouais, relayer à fond sur dans plein de réseaux. Voilà quoi, à distance. Et puis
Ok.
peut-être s'il y a des enfin au niveau logistique s'il y a des camions de matos qui peuvent s'organiser dans la ville avoisinante ou voilà de la récup de bouffe aussi pas mal
Mmh.
enfin
Tout ce qui est soutien
de prendre des
matériel est bon à
matériels
prendre.
ouais voilà ouais
Ok.
carrément et puis voilà quoi
Ok.
ouais. On tient pas mal au jus via le site internet et les réseaux aussi. Donc,
Ouais.
voilà, c'est plein de petites fourmis qui s'activent.
Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup.
Ouais. Et ben, je t'en prie, merci à
Et puis
toi.
bon courage du coup pour les jours à venir. On
Ouais,
espère
merci beaucoup.
que les flics débarqueront pas à l'aube. Voilà, on espère que ça ira,
Ouais,
que ça
et
continuera
voilà,
encore un
c'est
peu.
ça. C'est tous les matins de plus sont un jour de plus au carnet. On est content quand on se lève à 11 h.
Je veux bien te croire, ouais. Mais merci
Ouais.
beaucoup.
Yes. Salut.
Salut.
Merci.
Gangsters, bangers, we're putting them in a trance. Put them in a trance. We're putting them in a trance. Gangsters, bangers, we're putting them in a trance. Put them in a trance. We're putting them in a trance.
toujours sur Zoom Écologie, sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, et on vient d'écouter MIA avec Warriors. On reprend donc le fil de notre émission ZAD Partout, avec une deuxième partie consacrée à la ZAD de Gonesse, qui s'est installée depuis une dizaine de jours sur les terres du Triangle de Gonesse, et qui fait suite à la lutte contre le centre commercial Europa City, qui a donc été abandonné fin 2019. Mais c'est pas fini, puisque les terres du Triangle sont aussi convoitées par la région Île-de-France et par le Grand Paris Aménagement pour construire une gare de la ligne 17 du Grand Paris Express, qui va se retrouver du coup une gare en plein champ, puisqu'il n'y aura pas de centre commercial à desservir. C'est pourquoi la lutte donc du CPTG, du collectif pour le Triangle de Gonesse, n'est pas terminée, et c'est pourquoi donc une bande de joyeux zadistes se sont installés sur une parcelle proche de celle où la gare du Grand Paris Express doit être construite. Donc on va commencer d'abord par un reportage qui en fait va nous faire un peu visiter cette ZAD. On va pouvoir faire un peu le tour de la première ZAD d'Île-de-France et se rendre compte de à quel point on y est bien installé et à quel point la lutte va pouvoir y durer.
On va dire que le tout premier abri qu'on a fait, c'est la petite tente blanche là-bas, qui est depuis devenue une chambre où il y a deux tentes. Et puis après, on a fait ça pour mettre des choses à l'abri, pour installer une tente aussi au premier jour, le dimanche. Il pleuvait. Et puis de maintenant, c'est devenu d'une part la bibliothèque,
ouais.
Et d'autre part, là, c'est tout ce que les personnes amènent en soutien, des couvertures, des duvets, des matelas, des vêtements, des gants, des bonnets,
ouais.
Des chaussettes.
C'est
voilà.
Le vestiaire.
C'est le vestiaire, exactement.
Okay. Et on a tout en haut le drapeau.
Le drapeau, oui, aux terres de Gonesse, évidemment. Le drapeau aussi du Mouvement National de Lutte pour l'Environnement de Seine-Saint-Denis, qui est à fond aussi dans le CPTG. Donc le collectif pour les terres de Gonesse.
La main sur elle.
Voilà, puis une jolie déco. Enfin, c'est...
Oui, c'est ça, cette cabane, on peut la décrire, elle est...
Décorée de feuilles et de fleurs, de papier que Aline est venue, je pense, poser. Aline, c'est une artiste qui est avec nous au CPTG, qui est pleine de... Voilà, très, très créative. Qu'on peut dire d'autre, il y a une étagère qui attend les prochains livres,
ouais.
Puisque déjà la bibliothèque est bien fournie.
Ouais. On a même un petit bout de papier peint derrière pour.
Ah oui, alors la preuve. Alors, pour te dire tout, les toilettes qui sont là-bas, on a mis le papier peint dans les toilettes.
Ah ouais.
Parce qu'il fallait qu'il y ait quand même un petit côté bien comme chez soi.
Un petit côté cosy.
Voilà.
Ok.
Ça c'est voilà. Ensuite, alors historiquement. Bon, le salon, ils sont en train de le faire complètement fermé avec de la tôle. Ça, c'est trop magnifique. Mais au départ, ici, c'était un grand parapluie avec du plastique autour pour abriter un peu les braseros et puis pour que les soirées soient un petit peu confortables.
Ouais. Voilà, donc, oui, parce qu'il faut dire que là, on est quand même un peu dans le vent.
Ouais, dans le vent, dans le froid, mais
c'est frais, hein.
Bon, autour du brasero, ça va.
Ouais.
On avait une petite cuisine aussi de briquet de broc ici sous un parapluie et maintenant on a une magnifique cuisine toute construite avec... alors je crois qu'il y a des gens qui sont encore en train de faire des étagères dedans. Oh mais non, c'est fini. Voilà, on va visiter la cuisine.
Je passe devant.
Voilà.
Ah ouais.
On a une vraie cuisine avec toutes les... avec des palettes et puis au-dessus du bardage qui est devenu le toit. On a un plan de travail, on a les réchauds, on est alors absolument ravis de tout ce que les personnes ont amené. Il y a trop à manger maintenant, carrément, à tel point que nos amis repartent avec notamment des légumes pour préparer des soupes qui nous ramèneront... toute prête, parce qu'on n'a pas tellement le temps de cuisiner en fait. Mais
ouais.
Voilà, il y a de quoi... vraiment manger avec tout ce qu'il faut en épicerie, les fruits. Et
ouais, c'est ça, en fait, devant nous, on a des cagettes remplies là de confiture, café, sauce tomate, pâte, des fruits, des légumes.
Fruits, légumes,
un stock d'ail, j'ai jamais vu ça.
Des conserves, donc ça c'est bien aussi pour mettre tout de suite à cuire et manger rapidement. Du lait, des gâteaux, voilà.
Ok.
Toute maison, voilà, c'est très... C'est super, c'est créatif et en même temps c'est un bel endroit et ça aide bien pour vivre et pour rester sur place.
Bah bien sûr, ouais. C'est le plus important.
Derrière on a encore du stock. On est.
Ah oui, le fameux stock de PQ.
Et d'eau parce que bon, on n'a pas l'eau ici, on est obligé de faire venir l'eau. Mais aussi des légumes que je vais ramener chez moi parce que ça va mal se finir si on ne le cuisine pas tout de suite. Donc ça va faire une soupe demain.
Super.
Alors ici c'est l'atelier.
Ouais.
L'atelier où il y a tous les outils. Bon ouais. Pareil, tout ça c'est des dons, des gens qui sont venus qui ont apporté des outils, voire la caisse à outils du père, du grand-père. Qui ne servait plus, hop, tout est arrivé là. Et on a un bel outillage. Ça, c'est extraordinaire.
Ouais, on entend le bruit des marteaux. Et...
Ah ouais, alors là, ils sont en train de carrément de faire le toit du salon. Le salon qui a déjà double porte, genre saloon.
Ouais.
Ça va très bien.
Il y a la porte, mais il n'y a pas encore de toit au-dessus.
Voilà.
Si je vais le taper, je vais le passer, c'est comme ça.
Voilà, tout ça.
Alors là, la salle à manger pour le soir pour être à l'abri, mais là il y a une réunion pour l'instant.
Du coup, c'est toi qui prends, qui s'attends. Ça me va. Là on construit une cabane avec un étage enterré parce que quand on est sous terre, l'hiver ça garde la chaleur et l'été ça garde le frais. Du coup d'un point de vue isolance, surtout en ce moment quand on a des moins 10.
Ouais. Parce que là il faut expliquer que t'es les deux pieds dans un fossé qui fait 1m60, 1m70 de profond, même plus.
Ouais, 1m60.
Ouais. Et vous êtes en train d'élargir le fossé à la main.
Ouais.
Et vous allez faire quoi dans ce fossé alors?
Là du coup on va le remettre à niveau dans le fond. On va mettre une bâche pour être hors d'eau. Et après on va construire cabane en palette, poutre, paille, terre, argile et on verra suivant ce qu'on a.
Ok, et la cabane elle aura un étage dans le fond et un étage au-dessus?
Ouais,
okay.
Le rez-de-chaussée en dessous, c'est comme une maison qui a une cave quoi. En fait.
Okay.
La cave elle est dans la terre, c'est pareil. Sauf que nous on fait tout à la main quoi.
Bon courage.
Merci beaucoup.
On a des dortoirs ici. Sur le côté, donc des tentes et on a alors pour que ça soit bien isolé comme il fait froid, on a mis des palettes sur lesquelles on a mis de la paille et sur lesquelles sont posées les tentes. Donc du coup c'est
cool. Il y a un toit même par dessus pour protéger un peu.
Exactement, des bardages que très intelligemment les zadistes sont allés récupérer pas très loin et donc ça nous fait des toits partout, c'est magnifique.
Ouais, parce que là, dormir dans la tente cette semaine, ça devait pas être facile.
Moi, j'ai dormi sous une tente bien protégée et franchement, c'était agréable.
Ouais, fallait des bonnes chaussettes.
Non, même pas. J'ai un très bon duvet en laine.
Ah oui, voilà.
Oui. Alors, là, on est à l'arrière. Là aussi, c'est donc cette tente. Il y a des gens qui dorment dedans avec deux.
C'est un coin pour dormir aussi, ouais.
Voilà. On va continuer. Alors, la salle de bain.
Là, voilà, quand on continue un peu vers le fond du terrain.
Ici, c'est la salle de bain. Donc, on peut se laver dehors si on veut. Mais on peut rentrer.
Si on est très courageux.
Voilà.
Et alors, quand on rentre, on est dans une cabane. Est-ce que tu peux nous décrire un peu à quoi ça ressemble?
Alors, donc, on est dans une cabane faite avec des palettes et du bardage. Au-dessus et autour pour la protéger. Il y a un tapis qui est comme un tapis de salle de bain normal avec un petit chauffage. Alors dedans, il y a un petit plan sur lequel on peut poser la bassine pour se laver avec du savon, tout ce qu'il faut. Il y a des cagettes dans lesquelles il y a des des serviettes de toilette qui sont pendues. Il y a de tout ce qu'il faut pour se laver. Il y a aussi des protections pour les femmes. Là, il y a tout ce même pour. On peut venir changer un bébé. Franchement, il y a tout ce qu'il faut. Et derrière, la déco, c'est un joli tapis.
Voilà. C'est ça, il y a gris un peu d'isolation, décoration, il y a des brosses à dents qui attendent d'être utilisées, toutes neuves. Et...
Il y a des rasoirs, il y a tout ce qu'il faut.
Quelle organisation.
Oui, quelle solidarité, quel entrain. Enfin, vraiment, tous les jours, c'est incroyable ce que les gens apportent. C'est juste magnifique. Mais ça correspond à... Enfin, moi, je suis ravie, mais pas surprise, parce que la solidarité autour du Trian, ça fait déjà... Moi, ça fait 6 ans que je suis au collectif pour le Trian de Gonesse, ouais. Et on la sentait, on la voyait physiquement quand on faisait des fêtes et des réunions sur place. Et là, maintenant qu'on a décidé de faire la ZAD, les gens, ils répondent... voilà, ils ouais. savent que l'enjeu, il est énorme. Hein. C'est toutes les terres du Triangle de Gonesse. Si on arrive à préserver ça, ben on pourra recréer toute une ceinture maraîchère autour de Paris. C'est ça, ouais. Voilà.
On est des futuristes, on attend la montée des eaux, là.
Ouais. Non, mais regarde celui-là, là.
Oh, ouais. Oh, ah, il est bancal aussi.
Oh, ah, c'est
On a construit un banc et on a planté les clous, ensuite on l'a installé sur des parpaings et puis ensuite on l'a bombé en verre et puis là je suis en train de dessiner des fleurs. Ah bah prends ce que tu veux, ouais, c'est pas à moi.
Là, t'es en train de faire de la déco.
Ouais, maintenant on est en train de décorer le banc parce que on est très fiers de l'avoir fini. Mais ils se sentaient pas de le faire.
Ils sont plutôt en train de planter des clous.
Mais okay.
Les gars plantent des clous.
Pas, non, 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 c'était. Non, non, on a planté des clous, on était 2 filles et 1 garçon. Il n'y avait pas besoin de séparer les tâches.
Ouais.
On a bêché là-bas, on a paillé un peu, on a creusé aussi une tranchée.
Ouais.
Et puis après, on a fait des bombes à graines. Voilà.
Ok, merci.
Là, c'est une cabane qui est en train de se construire. Et là-bas, c'est un petit peu le poste de surveillance pour voir ce qui se passe de l'autre côté, puisqu'on a aussi des visiteurs qui viennent parfois nous voir de l'autre côté pour nous surveiller. Alors on est là aussi pour leur dire bonjour et leur dire qu'on est là.
Des visiteurs vêtus de bleu.
Exactement, c'est ça.
Parce que là, il faut quand même préciser que quand on marche vers le fond du terrain, en fait, ce qu'on voit derrière là, c'est quoi? C'est la route.
Alors ça, c'est une route qui passe en dessous, en fait. Et puis on a une station de service et un hôtel. Alors la station de service, elle est dans une impasse parce qu'avant il y avait une route qui passait là. Ouais. Et puis en fait ils avaient voulu que la station de service parte, enfin qu'ils décident de partir. Ouais. Ils ont refusé l'expropriation, donc ils ont coupé la route. Du coup, il n'y a plus de route. C'est une impasse. Et la route, elle passe le long et en dessous parce qu'ils ont fait une.
D'accord. Et c'est une grosse large route. Là, il y a de la circulation.
Oui, 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 c'est une grosse route.
Et là, on a un avion qui passe au-dessus de notre tête.
Voilà, direct à Roissy. Et oui, on les a retrouvés. On a été un petit moment tranquille pendant le moment où Roissy, il n'y avait quasiment plus de circulation. Et maintenant, ils reprennent. Oui, on les a juste au-dessus de nous. Là, quand ils passent sur le terrain, ils ont déjà les trains d'atterrissage.
Ouais. Hein. Bah oui, on est vraiment tout près de l'aéroport.
On est à côté. On okay. est vraiment à côté. Voilà. Et puis au-delà. Une belle, très beau graphe ZAD du triangle.
Oui.
Qui est magnifique, qui est au fond du terrain. En fait, là, ça fait 1 hectare.
Ok.
Hein, l'ensemble du terrain clôturé. Et puis, bon, des tas de graphes. Là, il y a des yeux dessinés.
C'est ça.
On a pas mal d'artistes.
Quand on s'éloigne un peu du coin où il y a déjà les cabanes construites, en fait, là, il y a plusieurs chantiers en cours de route.
Ouais.
Voilà.
Là-bas, il y a le compost. Là-bas, il y a un futur potager. On a décidé que ça serait là-bas. Et là, il y a...
construit des tables et des bancs, je crois.
Oui, ben voilà, c'est ça. Des tables et des bancs. Et une belle banderole.
Ouais.
Voilà, et puis... Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On a quasiment fait le tour. Là, c'est un dortoir.
Ouais.
Allons, enfants, le jour d'y croire. Et avec un très, très beau dessin fait aujourd'hui par une artiste qui a écrit « Un peuple lié peut plier, mais ne rompt point ». Voilà, avec « rond point » qui fait référence à nos gilets jaunes.
Que le dessin représente.
Alors, le dessin, c'est un rond-point. Justement, avec une route qui part ou deux, des champs autour, trois peupliers qui penchent avec le vent. Et voilà, on est quasiment sur le triangle de Gonesse avec un joli dessin comme ça. On est dessus et on a une représentation. Voilà,
ouais.
C'est superbe.
Ouais.
Alors, quand même, on n'oublie pas les génies. Les génies, c'est justement une idée de notre artiste, Aline. On les a fabriqués il y a 2 ans pour la 3e fête de Gonesse. Ouais. C'est les génies qui protègent les terres de Gonesse. Donc on les trimballe un peu partout. On les a amenés à Roissy quand on a occupé l'aérogare contre le T4. Ils sont plantés là, sur leur tige de fer, et ils protègent les zadistes, ils protègent les terres.
C'est des personnages en tissu, parce que c'est pas forcément pour des gens qui n'auraient pas déjà vu les images.
Oui, voilà. C'est ça. C'est des personnages en tissu sur lesquels on a peint ou cousu des yeux, des oreilles, des mains, etc.
Ouais. Et donc là, ouais, voilà, on en a 6, 7 qui nous surveillent et qui nous protègent, c'est ça?
Exactement.
Ouais. On a fait le tour à peu près.
Par exemple, on arrive, alors j'avais pas encore vu là la grande avenue, mais effectivement, il y a entre le salon sur lequel le toit est en train d'être posé et la salle à manger, on va dire, il y a la grande avenue.
Ouais.
En fait, c'est la grande avenue écrite sur un bardage qui fait qui clôt le salon,
ouais,
avec un petit passage entre le salon et la salle à manger. Voilà, mais ça donne une idée de la douce folie qui règne ici et ouais, qui est magnifique parce qu'il y a plein d'inventivité, plein de joie et plein de solidarité.
Oui, puis là, il faut voir qu'en une petite semaine, en fait, ça a déjà énormément pris forme. C'est
que
les conditions de l'occupation qui pourraient durer sont là, quoi.
Complètement.
Il y a tout ce qu'il faut pour
exactement
être bien installé.
Voilà, donc toutes les personnes qui veulent venir passer une journée ou une nuit ou les deux sont les bienvenues. Voilà.
C'est bien noté. Merci.
De rien.
sur Zoom Écologie, sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et pour la suite de notre émission ZAD Partout, on continue de parler de la lutte de la ZAD de Gonesse. Alors, on est avec Jean-Yves, qui est le vice-président du collectif pour les terres de Gonesse, du CPTG. On enregistre cette émission, donc cette interview la veille de l'émission. On est mercredi et aujourd'hui, il devait y avoir une audience au tribunal de Pontoise ce matin à propos de l'occupation en cours sur le terrain de la ZAD. Et finalement, ça a été reporté à vendredi. Est-ce que déjà, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe et pourquoi il y a une audience au tribunal ?
Donc, la Société du Grand Paris a prévu de faire une ligne qui va jusqu'au Mesnil-Amelot avec des gares qui partent. Je parle juste de la ligne 17 Nord. Hein,
oui, oui.
Sur la 17. Oui, du Grand Paris Express, parce que la 17 Sud se justifie assez bien, hein, quand même. Et nous, écologistes, on est plutôt pour les lignes de métro qui désengorgent les autoroutes ou les routes nationales. Sauf que
là, le problème, pour nous, c'est pas un problème d'opposition au transport en commun, c'est où est-ce que la gare va se situer, c'est-à-dire
non, même pas. C'est que pour nous, les transports en commun, c'est bien si ça sert aux gens.
Voilà.
Hein, si c'est juste pour desservir des intérêts économiques ou capitalistes, ça nous intéresse pas du tout. Et là, il se trouve que la 17 Nord, elle met beaucoup d'argent pour desservir. Alors, j'y vais dans l'ordre. Hein. Après le Bourget, qui jusque là, ça se justifie. Il y a la gare du Triangle de Gonesse, c'est en plein dans les Champs. C'est une gare qui devait desservir Europa City, qui ne se fera plus.
Oui.
Ensuite, c'est la gare du Piex, le parc des expositions de Villepinte, mm-hmm. qui est déjà desservie par le RERB. Ensuite, c'est Roissy 2. Ensuite, Roissy 4. Roissy 4, c'est le T4, l'agrandissement de Roissy, qui, on vient de l'apprendre la semaine dernière, ne se fera plus. Et ensuite, ça se termine par la gare. Alors, tout ça, c'est des gares où il n'y a aucun habitant autour, hein.
Oui.
Autour du Triangle de Gonesse, le premier habitant, il est à 1,7 km. Mmh. Autour du parc des expositions de Villepinte, il n'y a pas d'habitants. Autour de Roissy 2, il n'y a pas d'habitants. Roissy 4 ne se fera pas. Et elle se termine, la ligne, par la gare du Mesnil-Amelot. Et au Mesnil-Amelot, il y a 800 habitants. Donc sur les 800 habitants, admettons qu'au maximum, il y a 10% de la population qui prennent le métro, ça fera 80 habitants. Il faut savoir que pour rentabiliser, entre guillemets, hein, parce que c'est un service public, mais rentabiliser une ligne de métro comme ça, la SGP elle-même dit qu'il faut 400 000 passagers jour. Donc vous voyez qu'avec 80, on est loin du compte.
Bon. Oui, c'est ça, et donc là, ça colle pas du tout avec les besoins des habitants.
Alors, aucun habitant, et alors le maire de Gonesse et les élus de Gonesse disent oui, mais c'est la seule gare du Grand Paris Express qui se trouve dans le Val-d'Oise. Alors déjà c'est faux, parce que Roissy c'est dans le Val-d'Oise, donc ça fait déjà trois gares dans le Val-d'Oise dans leur prévision, et donc premièrement ça c'est faux. Deuxièmement, la gare, elle a beau être dans le Val-d'Oise, comme je l'ai dit en préambule, si jamais on fait la gare sur le triangle de Gonesse, elle ne servira pas aux habitants de Gonesse, parce que les habitants de Gonesse, ils seront plus près de la gare RERD de Villiers-le-Bel, qui s'appelle la gare de Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville.
Mmh.
Et donc, cette gare, elle a besoin, la ligne du RERD, qui est une ligne très chargée, a besoin de beaucoup d'améliorations. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est que l'argent qui doit être utilisé pour faire le bout de la ligne 17 Nord, qui ne devrait servir au mieux que d'alimenter Roissy, hein, par des gens qui habitent l'ouest de Paris et qui vont aller prendre leur avion à Roissy, en passant sur les terres du Val-d'Oise, les terres de Gonesse et la Seine-Saint-Denis, nous on pense qu'il vaut mieux améliorer, et pour la Seine-Saint-Denis, il vaut mieux améliorer le RERB, et pour le Val-d'Oise, il vaut mieux améliorer le RERD, ce qui serait beaucoup plus logique, plutôt que de faire une ligne avec des gares en plein champ qui ne serviront personne, puisque personne n'habite autour. Donc voilà, voilà en gros. Alors,
Oui, voilà, c'est sûr que là, il y a un problème de conception qui était lié à Europa City. Maintenant, Europa City n'existe plus et c'est pas du tout pensé pour les besoins des habitants de Gonesse et des
communautés. Et au T4.
Et le T4 qui va plus se faire non plus, voilà. En tout cas dans la forme prévue, vu qu'il y a un gros déclin du trafic aérien en ce moment. Quoi.
Alors après, comment ça marche? Eh ben, si on fait une gare en plein champ, au bout d'un moment, pour justifier la gare en plein champ, qu'est-ce qu'on fait autour? On fait des parkings, et puis autour des parkings, on fait des immeubles de bureaux, puis on fait des entrepôts, et puis on bétonne inutilement un truc qui ne sert à personne. Alors, pourquoi ça servira à personne? Parce que le triangle de Gonesse, il est sous les pistes de Roissy et du Bourget. Donc, en fait, on ne pourra pas, c'est interdit à l'habitation, parce que on sait maintenant, ça a été prouvé et reconnu par ADP, que les gens qui habitent aux alentours de l'aéroport, qui sont sous le bruit des pistes de Roissy, ont 28 mois de vie en bonne santé, en moins que le reste de la population. Donc c'est interdit d'habiter sur le triangle de Gonesse. On ne peut pas construire d'habitation. Donc en fait, la gare ne peut pas servir à des habitants, si on la fait à cet endroit-là. Mais là, il y a une course de vitesse, comme c'est quelque chose qui avait été prévu du temps où il était prévu Europa City et le T4, la SGP essaye de faire en vitesse, de mettre le pied dans la porte pour pouvoir réaliser son chantier avant que le gouvernement dise « ben non, finalement c'est obsolète, c'est idiot de dépenser de l'argent pour faire des choses en plein champ ». Et donc on est dans cette course, on est pris dans cette course de vitesse et on a eu… la semaine dernière, on a eu une réunion téléphonique avec les dirigeants de la SGP qui nous disaient que ils allaient faire du carottage, ils allaient faire pour construire la ligne 17 Nord, mais qu'ils n'allaient pas réaliser la gare. Et en fait, ils nous expliquent qu'ils font des carottages à l'endroit où doit se tenir la gare, avec un caisson qui éventuellement pourra servir à la gare, mais que c'est pas pour faire une gare. Donc, en fait, on voyait bien qu'ils s'en mêlaient les pinceaux. Ils nous expliquaient qu'ils faisaient une gare, mais que ça serait pas une gare, quoi. Bon,
une tentative d'embobiner les gens et de commencer un chantier alors, qui pourrait permettre en fait de bétonner autour, quoi.
Si c'est ça. Et il comptait sur Bernard Loup et sur moi-même pour qu'on explique aux zadistes que les travaux commencent, mais que c'est des travaux qui préfigurent la gare, mais qui ne sont pas les travaux de la gare. Donc je leur ai dit, écoutez, ce que vous êtes en train de nous raconter ne tient pas debout. Vous n'arriverez pas à convaincre les gens et par conséquent, nous non plus. Donc c'est comme ça qu'ils ont commencé et que... ils ont commencé donc mardi, hier.
Les travaux de forage, ils ont commencé mardi, c'est ça hein,
En fait, de travaux de forage, tous les zadistes ont bien vu sur le site hein, que c'est pas des travaux de carottage qu'ils sont en train de faire. En fait, c'est des engins lourds. Pour faire du carottage, il suffit de venir avec une petite foreuse et puis de forer et de retirer des carottes. Hein. Les carottes, c'est des échantillons de terre qu'on prend en profondeur. Là, c'est pas du tout ça. Hein. Ils sont en train d'aménager une route pour les équipements lourds, pour les gros camions et les gros engins de chantier. Donc, on voit bien que c'est pas pour faire du carottage. Hein. Oui. Alors, pour vous donner quelques nouvelles de la ZAD, donc parce que moi, j'y suis pas là en ce moment. Hein. Oui. Mais je me tiens au courant. Là, ce qu'on me décrit, c'est que dans la journée, donc ils sont en train de faire des routes d'accès. Pour des équipements lourds. Et puis la nuit, ils balayent toutes les terres agricoles avec des projecteurs très très puissants pour voir s'il n'y a pas des zadistes qui viendraient implanter quelque chose sur les terres agricoles. Ils font des rondes avec des chiens, ils entourent la ZAD pour... Il y a des rondes de police autour de la ZAD pour être sûr que les zadistes ne sortent pas de la ZAD. Enfin bon. C'est vraiment, on emploie les grands moyens comme si on était en guerre, comme si les zadistes représentaient un danger imminent pour les travaux. Alors, pourquoi les travaux démarrent? Parce que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de leur dire, il est urgent d'attendre, geler les travaux le temps que le gouvernement prenne sa décision.
Oui.
parce que le gouvernement n'a toujours pas pris de décision. L'année dernière, le 7 novembre 2019, le président de la République a décrété qu'on ne ferait pas Europa City parce que c'était un projet du siècle passé. Oui. Bon, mais depuis que Europa City a été annulé, aucune décision n'a été prise. Alors, depuis, le gouvernement doit choisir. Donc, on attend la décision du gouvernement, ce qui fait que quand la SGP a prévenu les agriculteurs qu'ils allaient commencer les travaux, nous on a dit il est urgent de faire quelque chose. Donc pourquoi les travaux ont été lancés par la SGP? Voilà. La SGP, l'année dernière, quand le gouvernement a annulé Europa City, la SGP a bien senti que la ligne 17 Nord, ça sentait le roussi. Quand le T4 a été annulé, là, ils ont bien compris que la 17 Nord, non seulement elle sentait le roussi, mais elle était complètement cramée. Donc, ils se sont dit... parce qu'en fait, les entreprises ont déjà les marchés. Les marchés ont déjà été attribués. Donc, en fait, depuis Notre-Dame-des-Landes, les gros du BTP, hein, Vinci, Eiffage, Bouygues, se sont aperçus que parfois, ils gagnaient plus d'argent à ne pas faire une réalisation plutôt qu'à la faire. Je m'explique. À Notre-Dame-des-Landes, Vinci va toucher des énormes dédits puisque le chantier a été annulé.
Oui, l'État va compenser le manque à gagner. C'est un truc.
Voilà.
Oui.
Voilà. Et alors, comme ils ont engagé aucun frais, parce que je vous signale que quand ils font des grands travaux comme ça, les gros du BTP, ils recrutent en Roumanie, en Bulgarie, tout un tas de travailleurs qu'on arrache à leur misère le temps d'un chantier et qu'on rend à leur misère une fois que c'est fini. Et qu'on s'arrange pour payer le moins possible et des conditions qui sont assez innommables. Donc, tant que ces travailleurs-là ne sont pas arrivés, etc., il n'y a pas de frais qui sont engagés. Et en fait, ils s'aperçoivent que s'ils commencent un chantier sans le réaliser, avec les dédommagements du gouvernement, et ben parfois ils font plus de bénéfices que s'ils réalisaient le chantier. Mais il faut que le chantier soit commencé. Donc en fait, là ils se sont dépêchés, c'est ce que j'appelle mettre le pied dans la porte, pour éviter qu'on referme la porte, ils se sont dépêchés d'engager les travaux. Alors que nous on leur expliquait qu'il était urgent d'attendre la décision du gouvernement. Voilà.
Et l'actu chaude un peu, c'est il y a une comparution qui est prévue vendredi matin.
Voilà. Donc la ZAD, il y a une ZAD qui s'est installée. Qui s'est installé sur des terres qui ont déjà été expropriées, hein, des propriétaires terriens qui ont été expropriés, et ils ont été expropriés par l'EPFIF. L'EPFIF, c'est l'établissement public foncier d'Île-de-France, qui s'est rendu propriétaire des terres, et sur ces terres, donc, s'est installée une ZAD. Qui a été soutenu par le CPTG. Hein. Nous, on est toutes les initiatives qui iront dans le sens de sauver ces terres agricoles, nous, on les trouve intéressantes et on les soutient. Ouais. Et donc, l'EPFIF a envoyé... la présidente de région s'est émue de cette ZAD, a demandé à un huissier de venir sur place. Parce qu'en fait, l'EPFIF, c'est un organisme qui dépend de la région. Donc, il y a un huissier qui est venu et qui a rencontré Bernard Loup, qui est le président du CPTG, et qui s'est dit bon ben là le responsable de la ZAD, alors qu'en fait ils ont rien compris. La ZAD, c'est pas du tout ça.
Hein. Oui, bah, évidemment, mais dans la logique des huissiers, des policiers, de la justice, et voilà. Toujours trouver un responsable et nommer une personne.
Donc, comme nous, on n'a rien à cacher, bah, bien sûr, l'huissier, il a demandé une carte d'identité. Bernard, il a sorti sa carte d'identité. Et donc, l'huissier, il n'a pas cherché plus loin. Hop, comparution au tribunal. Alors, si vous êtes rendu sur la ZAD, vous verrez que les terres que la ZAD occupe sont bien des terres qui appartiennent à l'EPFIF, mais qui gênent en rien les travaux, et surtout, c'est pas des terres qui sont c'est pas des terres agricoles.
Oui, c'était une friche sur laquelle il y avait des machines qui étaient stockées pendant un moment, c'est ça?
Voilà, et puis ensuite, ils ont mis toute une palissade autour de ce terrain pour éviter que les gens du voyage viennent s'y installer. Et puis, maintenant que la ZAD y est installée, ils regrettent d'avoir mis une palissade parce qu'effectivement, c'est très pratique la palissade. La ZAD est fermée à clé. Et on filtre les gens, pour rentrer sur la ZAD. Et effectivement, si les ZADistes avaient demandé à la SGP et à l'EPFIF d'installer des palissades tout autour, donc voilà où on en est. Bernard a été traduit en référé parce que c'était soi-disant urgent entre guillemets.
Oui. C'est quoi le motif C'est le
l'occupation illégale d'un terrain.
D'accord.
Mais toutes ces aberrations là. C'est assez marrant parce que ils se prennent les pieds dans le tapis avec toutes leurs aberrations. Mmh. Hein, c'est bien des terres publiques qui ont été prises aux agriculteurs et qui ont été payées avec nos impôts. Donc en fait, en clair, chaque habitant de la région Île-de-France est copropriétaire de ces terres. Donc on est bien sur des terres publiques.
Mmh.
Et donc Bernard a été traduit là. Je disais qu'il a fait la demande d'aide juridictionnelle.
Ouais.
Alors. Là aussi, hein, ils ont pris Bernard à titre privé et le CPTG, dont Bernard est président.
Ok, hein. Donc il est en deux titres, quoi, à titre personnel et à titre de président du CPTG.
Voilà, okay. Hein, alors qu'en fait, ce qu'ils voulaient, c'était traduire les ZADistes devant le tribunal. Donc ils mettent à côté de la plaque et ils prennent Bernard à titre personnel et à titre de président du CPTG.
Okay.
Donc là aussi, il y a vraiment un abus de pouvoir. Là, on prend un marteau piqueur pour enfoncer une punaise. Hein.
Ouais.
Bernard a demandé l'aide juridictionnelle parce qu'au CPTG, on n'a pas des fonds comme ça pour se payer un avocat. Donc ce matin, le juge a accordé 48 heures de plus à l'avocat pour se déplacer.
D'accord.
Voilà. Okay. Et donc en fait,
l'audience est reportée à vendredi matin.
Ouais, normalement ils auraient dû reporter d'un mois ou deux, mais bon, comme c'est de toute urgence, parce qu'apparemment il y a une urgence absolue de commencer le chantier, alors que la SGP nous dit non, c'est pas le chantier, c'est des carottages.
Oui, bien sûr, mais on voit bien que c'est des doubles discours et que là l'urgence ce serait d'avoir une décision de justice qui permettrait de faire expulser la ZAD par la police.
Voilà, et puis Bernard a l'avocat ce matin, pour vous donner des nouvelles donc de ce qui s'est passé, l'avocat de la partie adverse de l'EPFIF a expliqué pourquoi c'était urgentissime. Bernard a expliqué au président du tribunal pourquoi c'était pas urgent. Hein.
Mmh.
Bah oui, et effectivement, à l'évidence, si le gouvernement n'a pas pris sa décision, c'est que c'est pas urgent, quoi. Voilà. Donc on en est là de savoir ce que le tribunal va sortir. Moi, je pense, on n'a pas trop d'espoir du juge, parce que si le juge avait vraiment voulu nous donner l'aide juridictionnelle, et de plus, si le juge avait voulu écouter un petit peu les arguments, qui expliquent que c'est pas urgent, il aurait laissé un peu plus de temps. S'il a décidé que 48 heures, c'est qu'il a envie de rendre un jugement rapide.
Ouais. Donc on peut espérer aussi qu'il y aura encore du soutien vendredi matin. C'est à quelle heure l'audience?
Alors c'est à 10h l'audience vendredi matin.
Au
et
Pontoise.
Et, ouais, au tribunal de Pontoise. Hein, donc sur le site du CPTG, il suffit de faire sur votre meilleur moteur de recherche, vous faites oui aux terres de Gonesse, et vous aurez les coordonnées GPS de la ZAD, vous aurez les plans d'accès, les transports en commun pour la ZAD, et les points de rendez-vous pour le tribunal de Gonesse, le tribunal de Pontoise, pardon, pour vendredi.
Ok, c'est très bien alors. On fait passer le message à nos auditeurs. Voilà, Zoom Écologie, c'est fini pour aujourd'hui. On vous laisse avec la suite des programmes de Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM et on vous retrouve jeudi prochain. Le temps est beau.